VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Maniakiza avec vous, ravi de vous retrouver pour ce journal. On développe les derniers points de votre actualité. De soldats maliens ont été tués et en blessés dans cette nuit dans le nord du pays. Le ministère malien des forces armées parlait d'une attaque terroriste. Elle survient après la visite dimanche des ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU du poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel à Sévaré, ville dans le nord du Mali. Cette force anti-djihadiste conjointe, formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie, doit lancer sa première opération à la fin du mois. Au Niger, 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués le 4 octobre dans une embuscade près de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Le Congrès américain demande des explications au Pentagone qui assure avoir ouvert une enquête. Qu'est-ce qui a pu se passer ce jour-là? Idriss Fall a joint à Niamey Kala Moutari, ministre nigérien de la Défense.
Ils étaient en mission, faisaient leur travail. Les forces spéciales du Niger ont amené plusieurs autres missions dans les mêmes circonstances, dans la même zone. Et que cette fois-ci, au retour de leur mission, ils sont tombés sur cette embuscade. À la hauteur du village de Tongo-Tongo, les terroristes embusqués dans la forêt ont tiré dessus ceux qui étaient à découvert. Donc nos soldats, de manière générale, se sont très bien comportés. Mais il faut que tout le monde sache que dans ce genre de situation, lorsque vous êtes surpris de cette façon, lorsque vous êtes à découvert, la première des choses pour un soldat, c'est de se mettre à couvert. Et c'est le comportement que les soldats ont eu. Américains comme Nigériens, nous en sommes tous fiers de comment ils se sont comportés face à ce déluge de feu des terroristes.
Maintenant, déluge de feu, est-ce que ça signifie que les assaillants étaient en surnombre?
Ils étaient nombreux, mais ce n'est pas le nombre l'important. L'important, c'est la surprise, c'est que nous leur avons tendu une embuscade. Et tous les professionnels de cette matière-là vous diront qu'une embuscade, quand on y tombe, ce n'est plus une question de sécurité numérique ou de sécurité des armes.
Ça s'est passé à quelle distance de Tongo-Tongo, du village?
Moins d'une dizaine de kilomètres.
Parmi les soldats américains, il y en a 3 qui sont morts et il y a un 4e qu'on a retrouvé 48 heures après. Pourquoi?
Parce que tout simplement, les gens ont cherché à se mettre à couvert pour se défendre. Et il y avait une confusion qui ne permettait même pas à des forces qui sont venues en appui d'aider le soldat parce qu'il y avait une mêlée. Les gens se sont tirés dessus, les gens étaient à proximité les uns des autres et après il fallait qu'on prenne et nos blessés et nos morts et il fallait les chercher.
Est-ce que ça veut dire que les soldats pris par surprise ont battu en retraite?
Non, ils ont tenu, ils se sont mis à couvert. Parce que je vous dis, les autres étaient en forêt, eux étaient à découvert.
Le 4e corps, pourquoi on l'a retrouvé 48 heures après?
Parce qu'il fallait le chercher en forêt, parce que nous pensions au début qu'il a été emporté par les terroristes. Et on cherchait à couper la route aux terroristes. Nous avons mis tous les moyens pour le chercher, mais nous ne le cherchions pas là où il était. Nous le cherchions plus loin. Tout le monde était dans la recherche, et les Américains, et les Nigériens, et les Français.
Justement, les Français, les renforts sont venus quand? Apparemment, ils sont venus longtemps après l'attaque.
Ils sont venus au moment où il fallait. Je vous ai dit qu'il y avait une mêlée et qu'ils ne pouvaient pas tirer avec les moyens qu'ils avaient. C'était des miracles. Ils ne pouvaient pas tirer sans risquer la vie des amis.
Kala Moutari, ministre nigérien de la Défense. La lutte contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a aggravé le niveau de précarité dans l'extrême nord, la région la plus démunie du Cameroun, confrontée désormais au casse-tête de la reconstruction en période de conflit, explique un nouveau rapport du Centre d'analyse internationale Crisis Group. À défaut d'une étude nationale, le Fonds monétaire international a évalué l'impact budgétaire du conflit, incluant les dépenses de guerre, environ 1 à 2% du produit intérieur brut en 2015, soit entre 325 et 650 millions de dollars. De son côté, le gouvernement camerounais a estimé à 40 milliards de francs CFA le montant des destructions de biens, de maisons, d'écoles, de marchés, de routes et de centres de santé. 10 personnes sont mortes dans des affrontements qui ont opposé dans la nuit de lundi à mardi des orpailleurs dans le Tibesti, massif montagneux dans le nord du Tchad. Les affrontements parfois meurtriers sont fréquents entre les habitants du Tibesti et les orpailleurs venus d'autres régions du Tchad ou même d'autres pays comme le Soudan. La découverte des mines d'or dans la zone date des années 2012-2013. Elle aura attiré dans le massif montagneux du nord du Tchad, des chercheurs d'or venus des pays voisins. Le nord du Tchad, zone désertique et peu peuplée, frontalière de la Libye, du Niger et du Soudan, est également propice à de nombreux trafics illégaux.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a exhorté l'opposition et la présidence togolaise, engagée dans un bras de fer depuis 2 mois, à ouvrir des négociations en vue de sortir de la grave crise politique qui secoue le pays. Cette crise a déjà fait au moins 16 morts. Monsieur Ouattara a évoqué cette situation au Togo à marge d'une réunion de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Niamey, au Niger. Suivez le président Ouattara sur VOA Afrique.
Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionné. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Alors nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix et nous les encourageons, tous les Togolais, à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo et nous soutenons donc ces initiatives.
Les États-Unis appellent le gouvernement du Togo à respecter le droit de manifester. Washington fait part de son inquiétude face au niveau de violence dans le pays. Après des semaines de crise, le département d'État se dit préoccupé par un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. La saga de la présidentielle 2017 au Kenya a fait aujourd'hui un rapide détour par la Cour suprême. C'est celle-là même qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider une élection ni transparente ni vérifiable. Ce scrutin se tiendra bien demain, en moins de 5 minutes. Le président de la plus haute juridiction du pays, David Maraga, a douché les espoirs de ceux qui souhaitaient un report de l'élection afin de laisser le temps à la commission électorale de se réformer et de convaincre le leader de l'opposition, Raila Odinga, de revenir dans le jeu. Monsieur Maraga a expliqué que seuls 2 des 7 juges de la Cour suprême étaient en mesure de siéger. Mais ce scrutin boycotté par l'opposition pourrait plonger le pays dans une période de forte instabilité. Tous les regards sont désormais tournés vers Raila Odinga, qui doit donner ses dernières consignes à ses partisans lors d'un rassemblement dans un parc de Nairobi. Cet après-midi, ce rassemblement est officiellement interdit. Les autorités arguent que la campagne présidentielle est terminée depuis lundi soir et qu'il n'a pas été annoncé dans les formes au gouvernorat de Nairobi. Et on ignorait à la mi-journée si la police interviendrait ou non pour le disperser. Le secrétaire général de l'ONU au cœur du chaos centrafricain, premier temps fort de sa visite en Centrafrique, M. Antonio Guterres se rend à Bangassou, ville sous la coupe des miliciens dans le sud-est du pays, une région où les casques bleus s'efforcent de prévenir affrontements entre groupes armés et massacres de civils. Le retrait du Burundi du traité de Rome et de la Cour pénale internationale, décidé l'année dernière par Bujumbura, doit entrer en vigueur dans 2 jours. Écoutez l'avis du défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonima, lors de son passage à la Voix de l'Amérique.
C'est regrettable parce que la date butoir, c'est le 27 octobre. Nous espérions que la Cour pénale internationale allait ouvrir des enquêtes, mais qu'à cela ne tienne, attendons encore. Il y a quelques 3 jours qui restent. Mais si la Cour pénale internationale ne parvient pas à ouvrir des enquêtes proprement dites, il y a des enquêtes préliminaires. Et je pense que les crimes commis avant le 27 octobre pourront être poursuivis même dans l'avenir.
C'était donc Pierre Claver Mbonima à La Voix de l'Amérique. Fin de ce journal. Je vous retrouve dans 50 minutes. A tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.